Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Au Mans, depuis 1988, Pascal Le Rudulier est passionné d'histoire, surtout en ce qui concerne la période révolutionnaire. Du coup, il devenait difficile de résister à l'envie d'écrire autour de cette période, bien évidemment. Une saga sur laquelle nous allons nous pencher avec elle, commencée à 16 ans et achevée tout dernièrement. Nous allons nous pencher sur ce mystère de longévité avec elle. Eh bien, bonjour Pascal Le Rudulier.
Bonjour Bertrand.
Alors, question traditionnelle, toujours au début, quand c'est la première fois qu'on a un invité, qui êtes-vous? Que faites-vous? Où vivez-vous? Je veux tout savoir sur vous.
Bah, tu en veux beaucoup. Alors, je m'appelle Pascal Le Rudulier. Comme tu l'as dit, je suis arrivée au Mans en 1988 pour le travail. J'étais fonctionnaire d'État. Et qui je suis? Je suis une femme passionnée. Ça, c'est sûr. Passionnante, je sais pas.
Ah, ça, à la lecture de ce que j'ai déjà vu, c'est plutôt assez intéressant. Hein.
Passionnée, c'est sûr. Passionnée d'histoire par...
Grâce à des professeurs, j'ai vu dans votre biographie.
Tout à fait.
Qui vous ont donné ce goût-là.
Ouais. Ouais. Tout à fait. Le goût de l'histoire, de ce qui s'est passé avant, pour comprendre l'histoire, mais aussi peut-être notre présent.
Et puis la Révolution en particulier, pourquoi la Révolution en particulier? Qu'est-ce qui a été un déclencheur pour que cette période devienne fondamentale pour vous?
Alors, tout d'abord, c'est une période très courte, mais très dense, où il y a des changements, mais alors énormes.
Pour un romancier, c'est super, en fait.
Bah voilà, tout à fait. Il y a des événements partout, dans toutes les villes,
sans arrêt,
dans tout le monde. Il y a des changements. Moi, je trouve que ces gens qui faisaient l'histoire, les grands personnages ou les petits, étaient des géants.
À ce point-là?
Ah oui, à ce point-là. Ils ont inventé quand même notre république où nous vivons.
Et en fait, vous commencez à écrire très tôt des poèmes, des policiers, de la science-fiction. C'est un peu comme l'histoire, ce sont des professeurs qui vous ont donné cette envie aussi, dans d'autres domaines que l'histoire, d'écrire des poèmes, des choses. C'est des professeurs de français, par exemple?
Oui, c'était mon professeur de français et d'histoire qui m'a donné.
Ah, ceci explique cela.
Voilà. Mais en fait, j'avais envie d'écrire parce que je suis une grande lectrice.
Et quand on est un grand lecteur ou une grande lectrice, ben on a envie un jour de la prendre la plume, hein, de dire et pourquoi pas moi
ça. Bah, surtout pour continuer les histoires. Des fois, on est déçu par la fin.
Ah,
j'aime pas
oui,
les fins ouvertes,
c'est,
par exemple.
Ah d'accord, c'est cette idée de donner une suite à des romans qu'on a lus de quelqu'un d'autre.
Voilà,
en disant,
tout à fait.
Ah moi je donnerais bien une suite à ça, je vais le faire.
Voilà.
Ah c'est original ça, oui.
Ouais. Parce que je fourmille d'idées encore aujourd'hui, donc j'ai besoin d'écrire, c'est vital pour moi.
Thérapie, c'est au point où ça peut être une thérapie.
Ouais. Complètement. J'ai écrit à une période de ma vie qui était difficile.
Ça vous a aidé.
Ouais. Et j'ai commencé à publier ces livres en 2015 après les décès assez tragiques de mes proches.
Ah oui.
C'était vraiment ça. Survivre.
C'est ça. En fait, si je comprends bien, vous avez commencé à écrire très tôt, vous disiez à partir de 16 ans, mais sans doute par le boulot, etc., vous avez fait une pause en quelque sorte. Et finalement, ce qui vous a remis la main à la plume, ça a été des épreuves difficiles pour évacuer tout ça, quoi.
Tout à fait.
C'est tout à fait ça.
Et à chaque fois dans ma vie, quand j'ai eu des périodes difficiles, les livres m'ont sauvée.
Ça, c'est
après mon divorce, par exemple, je me suis mis à lire des grandes sagas historiques comme Les Rois Maudits.
Ça aussi, ça vous a donné envie d'en faire autant.
Ouais. Autant, parce qu'il est quand même assez.
Ah, bah on va le voir, là, vous avez quand même déjà une saga qui a déjà un bon niveau.
Hein. Je lis énormément d'essais historiques, de biographies. Je contacte les historiens aussi pour que ça soit le plus juste possible, le plus crédible, que comme c'est des romans historiques. Mes personnages fictifs côtoient des vrais personnages. Et il faut que ça soit crédible, il faut que je connaisse bien le personnage historique pour que ça soit conforme.
Alors, vous quittez votre boulot en 2021, donc on l'a dit dans la fonction publique, et vous décidez de rouler toute seule. Alors, en fait, l'écriture, c'est là que ça m'a plu parce que c'est la première fois que j'ai un personnage comme vous en face de moi dans cette catégorie-là. Outre l'écriture, vous devenez écrivaine publique et biographe familial dans les EHPAD. Alors, on peut peut-être l'expliquer aux gens, parce qu'ils ne savent pas forcément. Ça consiste en quoi, ces deux activités-là, exactement?
Alors, pour partir de la fonction publique, il fallait que j'ai un projet qui soit assez bien
pointu,
ficelé.
Pointu, voilà, pour être accepté par les autorités.
Voilà. Comme j'avais déjà publié depuis 2015, j'avais déjà un numéro Siret avec la qualité d'auteur. Et... écrivain public, je trouvais que ça allait dans la même veine parce que c'est aider les gens dans leurs formalités administratives, on va dire. Et je me suis rendu compte dans mon métier que les gens étaient paniqués à écrire des lettres, à comprendre le langage.
Oui, c'est votre métier qui vous a amené à aller vers ça.
Voilà, tout à fait.
Ouais. Et puis donc, la biographie familiale. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est?
Alors, la biographie familiale, c'est justement rédiger une biographie, mais qui ne sera pas publiée au public.
Elle est pour la famille.
Voilà, elle est pour la famille. Et je voulais, on peut le faire devant plein de personnes, mais je voulais me spécifier dans les EHPAD auprès des personnes âgées qui sont oubliées et qui ont plein d'histoires à raconter. Surtout cette génération qui a connu
la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, les événements de 68,
avec des moments difficiles. Et je pensais, alors j'ai une amie orthophoniste qui m'a dit que ça serait très bien en plus pour la personne, pour parler, pour se souvenir, pour raconter.
Ça fait travailler leur cerveau.
Et se sentir utile. Et pour la famille aussi, de comprendre mieux cette personne âgée, qu'elle a vécu.
Oui, parce que
réconcilier les familles.
C'est intéressant. Alors, aussi, parce que parfois on peut vivre auprès de quelqu'un sans trop le connaître, qu'il est discret, parce qu'il raconte pas sa vie, parce que il a vécu des choses, mais qu'il pense que ça intéresse personne d'autre que lui-même.
Voilà. Et puis là, c'est une génération qui ne parlait pas. Moi, par exemple, mon père n'a jamais parlé de la guerre d'Algérie. Alors je sais que ça l'a traumatisé.
Par exemple. Et puis on laisse une mémoire pour ses enfants, pour ses petits enfants, pour ses arrière petits enfants.
Voilà.
Ça compte, même plusieurs générations après, quand on retrouve dans une bibliothèque familiale un livre qui raconte la vie d'une arrière-arrière-grand-mère ou d'un arrière-arrière-grand-père, j'imagine qu'il y a quelque chose d'émouvant, quoi.
Je les entends, je les comprends. Mais j'ai plus envie d'y croire. Je les apprends comme un enfant, mais je ne veux plus les voir. J'en vois passer, j'en vois rôder, mais maintenant ça ne m'aime plus. J'en vois qui courent à mes côtés, sensations révolues. Dans le courage pour l'hommage, je me raccroche aux souvenirs. Le temps qu'on calme, le temps d'un drame, je me raccroche aux souvenirs. Pas qu'une photo mais un bonheur, pas qu'une chanson pour laquelle on pleure. Me soutiennent dans mes propos, ils m'entraînent et traînent et traînent toujours plus haut.
Alors, vous commencez votre saga révolutionnaire en 2015. Ça s'intitule « Les berges du Marais », dont le premier tome, lui, s'intitule « La paysanne », que vous dédicacez d'ailleurs à vos profs d'histoire, pour qui vous avez fait l'éloge tout à l'heure. La paysanne s'appelle Laetitia Montou, comme l'auteur que vous étiez alors. C'est étonnant, parce que ça m'a frappé de voir sur la couverture que l'auteur s'appelait Laetitia Montou. Alors donc, vous avez changé de pseudonyme depuis.
Voilà. Pour les deux premiers, comme j'étais dans la fonction publique d'État, je ne voulais pas que mon nom apparaisse sur la couverture.
Ah oui, ça, quand on est fonctionnaire, c'est vrai que ça peut être un inconvénient. Alors, donc là, on est au début de notre saga, c'est-à-dire que c'est une adolescente. Et elle va quitter son village parce que ses parents sont trop pauvres. Et elle se rend chez une tante parisienne. Et là, nous sommes en 1788, donc on est à un an à peu près de la Révolution. Elle va du coup arriver à Paris, bah, se retrouver en plein cœur du cyclone, mais en même temps, parce que c'est pas forcément très agréable de se retrouver en pleine révolution comme ça, mais en même temps, elle découvre des amitiés, elle découvre l'amour, voilà, elle devient femme, en quelque sorte, petit à petit. Cette première partie se termine en 1790, en pleine révolution, donc. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu montrer à ce stade-là? Comment les gens vivaient pendant cette révolution? Je crois que c'est ça que vous avez voulu faire.
Oui, tout à fait. En fait, pour reprendre un terme de Chauderlot de Laclos, dont je suis en train de lire une biographie, qui est l'auteur des Liaisons dangereuses,
ah,
écrivait en 1784 dans un journal, « L'histoire apprend les mœurs des nations, mais non celles des citoyens. » Donc je voulais être au plus près des gens, savoir comment ils vivaient, un, à cette époque, et comment ils ont vécu
au quotidien
le début de la révolution. Les trois quarts du salaire d'un ouvrier passaient dans l'achat du pain.
Aïe, aïe, aïe.
Les trois quarts de son salaire.
Voilà des choses
et
intéressantes.
Et le pain, il y en avait toujours pas assez. Donc, il y avait des énormes files d'attente devant les boulangeries. Et quand on arrivait et que le boulanger fermait sa devanture...
Parce qu'il n'avait plus de pain.
Il y avait des émeutes qui se provoquaient.
Ça alimenter la révolution,
voilà,
en fait.
Tout à fait.
Ça l'a alimenté.
Un des premiers moments de révolution populaire, c'est l'émeute Réveillon, en avril 1789, où un entrepreneur a commencé à discuter dans les districts de quartier pour les élections, en disant que les ouvriers étaient trop payés.
Aïe.
Alors là, ils se sont mis en colère.
Ah là, ça met en colère, oui.
Voilà.
J'imagine.
Et ça a été assez violent. Il y a eu des centaines de morts... Elle a été réprimée, et c'est la première émeute populaire. Bon, pendant tout le XVIIIe siècle, c'était
de toute façon,
hein, quotidienne, ouais, surtout pour les subsistants. Donc, je voulais connaître la vie des gens et comment ils ont réagi à cette montée de la politique, l'intervention en politique du peuple, avec les élections des États généraux,
bah c'est
les assemblées de districts.
Ce parallèle, là, il est intéressant, ouais. Alors, on attaque le deuxième volume, parce que le temps passe. Là, dès l'année suivante, vous sortez ce deuxième volume qui s'intitule « La révoltée ». Alors, le titre, il est important, on va voir pourquoi tout à l'heure. Parce que Laetitia adopte les idées révolutionnaires, manifestement. On peut même dire qu'elle défend profondément et avec passion toutes les théories de justice et d'égalité.
Elle va au premier club, c'est-à-dire les réunions des... pour les États généraux, et après les députés qui se réunissent, le premier, le club breton à Versailles, qui en 89, après la journée des femmes, arrive à Paris et devient le club des Jacobins. Elle fréquente tous ces clubs-là, donc elle continue...
Oui. En fait, elle s'intellectualise en quelque sorte.
Ah,
c'est-à-dire qu'elle s'épanouit intellectuellement, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'elle prend conscience de plein de choses, elle vivait dans son petit village... pauvre. Mmh. Et là, à Paris, elle découvre un monde, des réalités qu'elle ne connaissait pas, qui lui ouvre sa conscience de la société.
Comme les autres personnes de cette époque, elle commence à s'intéresser aux philosophes qu'elle ne connaissait pas, elle lit beaucoup et elle participe aux débats.
Parce qu'elle rencontre tous les personnages.
Ouais,
là, elle les rencontre, Danton, j'en ai parlé tout à l'heure, elle rencontre Danton, elle rencontre Robespierre, vous vous rendez compte, elle rencontre des personnages, Marat, j'ai noté, Camille Desmoulins. Donc là, pour elle, ça prend de l'ampleur, son rôle qu'elle va jouer.
Le rôle, je ne sais pas.
Oui.
Mais elle rencontre
à son niveau,
tous les ténors, on va dire, ce qui est normal, puisqu'elle fréquente les clubs. Il y a des clubs de femmes, il y a des clubs mixtes aussi. Et c'est concentré sur l'année 1792. Ce volume, qui est aussi important que les autres, il est sur 9 mois.
C'est court, hein?
Oui, mais il y a tellement de choses en
1792. Là, il se passe beaucoup de choses, c'est ça?
Voilà.
Alors, quel rôle elle va jouer, elle, dans ce moment-là, dans cette période-là? Elle joue quel rôle? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Vous dites qu'elle fréquente des clubs.
Elle fréquente des clubs.
Mais encore.
Mais elle fréquente aussi les salons des nobles, par l'intermédiaire de son mari, qui est un noble, qui est un monarchien. Et elle fréquente les deux, en fait, et elle devient espionne.
On avait le droit de le dire, ça?
Je ne sais pas.
Ah, mais remarquez, vous avez raison, ça peut donner de l'appétit au lecteur de dire « Ah, elle va devenir espionne. »
J'ai pas dit espionne, pour qui, pourquoi.
Voilà.
Elle devient espionne parce qu'elle se rend compte qu'il y a beaucoup de heurts, beaucoup de manipulations, beaucoup de complots, même si c'était un peu des fois éphémère ou chimérique, mais il y a quand même des complots. Donc, elle participe beaucoup à ça et elle va participer à tous les grand mouvement de 1792. Donc, avec juin, l'envahissement des Tuileries. Août 1792, avec la prise des Tuileries, la chute du roi.
Là, c'est le commencement de la fin pour la royauté. Alors, qu'est-ce que nous réserve le quatrième tome? Parce que je sais qu'il est en route. Est-ce qu'on peut déjà donner une petite piste, un petit... Je sais pas, c'est vous qui me dites.
J'ai tout dans la tête. En fait, ça sera sur les années 1793-1794, jusqu'à la chute de Robespierre en Thermidor en 2. Donc, j'ai déjà mon plan dans la tête. Oui, elle a cette chance-là. Donc,
alors, on passe au troisième volume, en 2018 cette fois-ci. Et là, c'est là la nuance avec ce que je viens de dire. Le deuxième volume s'intitulait La Révoltée, le troisième volume s'appelle La Révolutionnaire. Là, on passe directement de la révoltée, encore sage, entre guillemets, hein, qui entre vraiment dans la révolution, qui cette fois-ci s'y donne à fond. C'est en fait l'occasion pour vous de faire aussi un bilan social des années 91-92, là, à ce moment-là. Vous le faites en fait dès le début.
Il va y avoir de l'action. Elle va notamment ne pas rester à Paris, mais aller, ce qui est normal, en Vendée en 1793. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va gérer ses idées? Est-ce qu'elle va retrouver des anciens amis?
Voilà. Est-ce qu'il va y avoir des antagonismes?
Voilà.
On ne sait pas encore.
Des rapprochements, des amours contrariés.
À l'écoute des mots, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, et radioalpa.com.
Du coup, dernière question sur le sujet. Est-ce que ça s'arrêtera en quatrième? Vous me dites 94, bah non. J'ai l'impression que non. Hein. Bah non. Il y aura un cinquième volume.
Je voudrais que ça s'arrête à la Commune en 1871.
Quand même.
Oui.
Ah, ça promet, hein.
Oui, parce qu'il y a le directoire, le consulat, le rétablissement de la monarchie, la Deuxième République.
Ah bon, on n'a pas fini, hein. Ah ouais, mais non, c'est intéressant. Mais moi, parce que là, c'est vraiment, c'est toute une période avant que, enfin, la République s'installe. En fait, c'est ça. Vous voulez aller jusqu'au bout du bout de la royauté, de l'Empire.
Je n'avais pas vu ça comme ça. Mais,
mais en fait, vous allez vraiment jusqu'à ce au moment où la République va enfin s'instaurer définitivement.
Ah oui, je n'avais pas vu ça, mais tout à fait.
Ah, je n'ai pas fait exprès. Hein.
C'est une très bonne analyse, merci beaucoup Bertrand.
En fait, c'est vraiment une période révolutionnaire avec des hauts, des bas.
Voilà, on établit...
La monarchie qui reprend le pouvoir, qui la repère. Ouais. Alors, on fait une petite pause, parce que, en fait, on fait une petite pause. Vous faites une petite pause dans votre saga. Tout à coup, là, en 2023, vous écrivez un livre qui s'appelle « Soleil mortel », un roman, bon, mais un roman policier cette fois. Alors, il y est question d'une journaliste, alors comme moi je suis journaliste, je me sens un peu concerné, en vacances dans le Var, à Saint-Cyr-sur-Mer très précisément, et elle tombe amoureuse d'un habitant, mais le problème c'est qu'il y a un meurtre qui va un peu casser l'ambiance, parce que le meurtre, bah, c'est celui de cet homme dont elle tombe un peu amoureuse. Alors là, c'est le début de l'intrigue. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour l'instant, pour titiller un peu les auditeurs, pour leur donner envie de lire votre livre? Ou est-ce que je peux révéler des choses? Elle est orpheline. Ses parents sont morts dans un accident d'avion. Ça met une ambiance déjà, ça. Hein. Son fiancier disparaît avec la fortune de la journaliste en question, qui avait hérité d'une entreprise pharmaceutique. Ça, déjà, on sent que c'est, pour elle, la vie n'est pas forcément simple. Hein. Elle fait peut-être un beau métier, mais la vie n'est pas simple. Alors, pas de chance, l'homme dont elle tombe amoureuse, c'est lui qui meurt, hein, comme je viens de le dire. Là-dedans, il y a la mafia qui s'en mêle, elle est enlevée, elle est sauvée. Chez vous, ça remue, quoi. Il faut que ça remue avec vous.
Oui, tout à fait. On retrouve aussi, je pensais, l'aspect manipulation de certains personnages. Parce que dans ma saga, il y a sa cousine, Aurore, qui est atroce. Et j'aime bien les gens très noirs. Comme ça. Et j'aime bien les personnages noirs comme ça, qui trompent tout le monde, qui manipulent tout le monde.
Et le registre policier est idéal pour ce genre de choses? Pour ce genre d'aspect de la personnalité des gens?
Non, parce que dans ma saga, j'en ai eu
On l'a aussi.
Plus, le policier, c'est pas un style auquel je suis habituée.
Ça a été
lis quelques-uns.
Ça a été une nouvelle forme d'écriture pour vous?
En fait, ça a été un défi
un nouveau défi.
D'amis qui m'ont provoqué, qui m'ont dit c'est bien les romans historiques.
T'es pas chiche. Et là, résultat, conclusion, vous êtes contente? Vous vous dites, ah oui, finalement...
C'est pas à moi c'est de le dire.
Non, mais vous, l'envie de continuer dans le policier, peut-être, non?
Non,
c'était une expérience, simplement.
C'était une expérience, après je verrai.
C'est votre saga, pour l'instant,
bah
qui
oui,
est votre préoccupation.
Ça me demande tellement de travail, la saga, que j'ai pas beaucoup de place pour autre chose.
Bah oui, parce que vous faites de la recherche historique, oui. Ça prend du temps, c'est pas seulement l'écriture.
Non.
C'est pas seulement de faire un scénario, si j'ose dire, de l'histoire. C'est aussi de la recherche, quoi. C'est un sacré boulot.
Hein. Beaucoup, trois quarts de recherche.
Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission, on est obligé de s'arrêter là, mais je pense qu'on a peut-être donné un peu d'envie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah j'espère, hein, moi ça m'a paru très agréable.
Bon, bah voilà, l'important c'est ça, c'est que déjà ce soit agréable quand on est devant.
Je voulais juste rajouter une chose,
oui,
c'est que
allez-y.
Je suis aussi chroniqueuse littéraire sur les sites de lecteurs, notamment Babelio, Talou 61.
Ok, Talou, T-A-L-O-U. Hein.
Voilà.
Très bien. Eh ben écoutez, voilà, on va conclure là-dessus. Je vous remercie beaucoup, hein, c'était intéressant.
Merci
beaucoup.
Mais
de toute façon, c'est une période de la Révolution qui est intéressante. Voilà.
Merci à vous. Merci beaucoup, Bertrand.
Au revoir.
Au revoir.
Alors donc, Laetitia Montou, au début de cette aventure, est devenue Pascal Le Rudulier, mais ce n'est pas encore son vrai nom, figurez-vous. Enfin, en tout cas, j'en connais un autre, moi. Comme dans ses romans, plane un certain mystère sur elle, et on entendra encore parler de cette dame, car, vous l'avez compris, pendant toute l'émission, elle se penche aussi sur la généalogie, sur la psychogénéalogie, sur l'épigénétique, autant de sources de futurs récits sur ses ancêtres. En attendant de ces nouvelles, eh bien, on se retrouve, nous, dans 15 jours, pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Salut à tous !